En gagnant mon pain, troisième partie. Chapitre 6. De nouveau, me voici en ville, dans une grande maison blanche à deux étages, qui ressemble à une tombe. Le bâtiment est neuf, mais comme boursouflé et étique. On dirait un pauvre qui se serait soudain enrichi et aurait aussitôt mangé à en crever de graisse. Il est perpendiculaire à la rue. Chacun de ces étages a 8 fenêtres, et là où devrait se trouver la façade, on en compte 4. Aux étages inférieurs, les fenêtres ouvrent sur un étroit passage, sur la cour. Plus haut, elles ont vue sur la palissade de la maisonnette d'une blanchisseuse et sur un ravin malodorant. Pas de rue digne de ce nom. Devant la maison, c'est le ravin malpropre sur lequel on a jeté 2 étroites passerelles. À gauche, il s'étend jusqu'à la caserne des disciplinaires. On y lance toutes les ordures des cours. Une mare d'eau boueuse et vert foncé y stagne. À droite, à son extrémité, l'étang de Zviezdin, entouré de saules, dégage une odeur aigre. Le centre du ravin est juste en face de la maison. Par moitié, il est recouvert de balayures, d'orties, d'oseilles sauvages, de bardanes. Plus loin, le prêtre Dorimédonte Pokrovski a planté un jardin. Il y a aussi construit un pavillon en lattes minces peintes en vert. Quand on lance de grosses pierres contre ce pavillon, les lattes se brisent avec un craquement sinistre. L'endroit est morne à l'extrême et d'une saleté répugnante. L'automne a cruellement défiguré la terre argileuse. Il l'a transformée en une résine jaunâtre qui se colle opiniâtrement aux pieds. Jamais encore je n'avais vu autant de boue sur un espace aussi restreint. J'étais habituée à la propreté des champs et de la forêt, et ce coin de la ville m'inspirait du dégoût et de l'ennui. Au-delà du ravin s'élèvent des palissades grises et vétustes. Plus loin, j'aperçois la maisonnette où j'ai vécu cet hiver, pendant que j'étais apprenti au magasin. La proximité de cette maison m'accable encore davantage. Pourquoi faut-il que je revienne habiter dans cette rue? Je connais mon patron. Il venait en visite chez ma mère, en compagnie de son frère, qui glapissait d'une manière comique « André et papa ! André et papa !» Ils n'ont pas changé. L'aîné, qui a le nez en bec de corbin, de longs cheveux, est agréable et paraît bon. Le cadet, Victor, a le même visage chevalin et les mêmes taches de rousseur. Leur mère, la sœur de ma grand-mère, est de tempérament irascible et criard. L'aîné est marié. Sa femme est appétissante, blanche comme du pain de froment. Elle a de grands yeux très noirs. Dès le premier jour, elle me dit à 2 reprises « J'ai fait cadeau à ta mère d'une pèlerine de soie garnie de jais. » Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait pu faire un cadeau à ma mère et que ma mère l'eût accepté. Lorsque la patronne me rappela cette pèlerine encore une fois, je lui répliquai « Si tu l'as donné, tu l'as bien voulu, ce n'est pas la peine de t'en vanter. » Elle eut un mouvement de recul. « Hein ? À qui parles-tu ? » Son visage se couvrit de taches rouges, ses yeux sortirent de leur orbite, elle appela son mari. Celui-ci arriva à la cuisine, le compas à la main, le crayon derrière l'oreille. Il écouta sa femme et me dit « Il faut dire vous, à elle et à tout le monde, et il ne faut pas être insolent. » Puis, d'un ton impatient, il s'adressa à sa femme. « Ne me dérange pas pour des bêtises. »« Comment des bêtises? Si ta famille... »« Que le diable l'emporte, la famille !» s'exclama le patron, et il prit la fuite. Je n'étais pas content non plus de ce que ces gens fussent de la parenté de grand-mère. D'après mes observations, les parents se traitent les uns les autres beaucoup plus mal que les étrangers. Car... mieux que les étrangers, ils connaissent leurs faiblesses et leurs ridicules réciproques. Leurs calomnies sont plus méchantes, leurs querelles et leurs batailles plus fréquentes. Le patron me plaisait, Il avait une jolie manière de secouer ses cheveux, de les arranger derrière les oreilles. Il me rappelait, je ne sais pourquoi, mon ancien ami, la bonne affaire. Il riait souvent avec satisfaction. Ses yeux gris avaient une expression débonnaire. Des petites rides comiques se dessinaient de chaque côté de son nez de vautour. « Finissez donc de vous quereller, les poules !» disait-il à sa femme et à sa mère, découvrant en un bon sourire ses dents petites et serrées. Belle-mère et belle-fille se disputaient tous les jours. J'étais très étonnée de voir avec quelle facilité et quelle rapidité naissaient les querelles. Dès le matin, débraillée, décoiffée, elle courait d'une pièce à l'autre comme si le feu était à la maison. Elle se démenait ainsi toute la journée et ne se reposait qu'à table, pendant le dîner, le thé et le souper. Elle buvait et mangeait à l'excès, jusqu'à ce qu'elle fût ivre et fatiguée. Pendant les repas, elle parlait nourriture. Elles échangeaient de mauvais compliments, sans acharnement, en vue de la prochaine dispute. De quelque manière que la belle-mère s'y prît pour un travail, la bru disait infailliblement « Ma maman, elle s'y prend autrement. »
« Alors, c'est moins bien fait. »«
Pardon, c'est mieux. »«
Eh bien, va-t'en chez ta mère, si c'est comme ça. »«
Je suis maîtresse ici. »«
Et moi, que suis-je ?»
Le patron intervenait. « Assez, les poules. Êtes-vous folle ou quoi ?» Tout dans la maison était bizarre et ridicule à l'extrême. Pour aller de la cuisine à la salle à manger, il fallait passer par un water-closet exigu, le seul de l'appartement. On était obligé de le traverser pour servir les repas. C'était l'objet de joyeuses plaisanteries et souvent aussi de malentendus comiques. J'étais chargée de verser de l'eau dans le baquet du closet. Je dormais dans la cuisine, entre la porte du closet et celle de l'entrée. J'avais chaud à la tête à cause du fourneau et froid aux pieds à cause de la porte d'entrée où filtrait un courant d'air. Avant de me coucher, je ramassais tous les paillassons pour me les mettre sur les pieds. Le grand salon était morne et vide avec ses deux glaces entre les fenêtres, ses tableaux, primes de journaux illustrés, ses deux tables à jeux et sa douzaine de chaises canées. Le petit salon, encombré de meubles capitonnés, d'armoires pleines d'argenterie et de vaisselle, était éclairé par trois lampes dépareillées. Dans la chambre à coucher, obscure, sans fenêtre, se trouvaient, en plus d'un vaste lit, des malles et des armoires, d'où sortait une odeur de tabac en feuilles et de romarin. Ces trois pièces étaient toujours vides, et les patrons se réunissaient dans la petite salle à manger où ils se gênaient mutuellement. Aussitôt après le thé du matin, vers 8 heures, le patron et son frère déplaçaient la table, y étalaient des feuilles de papier blanc, des règles, des crayons, des godets à encre de Chine et se mettaient à travailler, l'un à un bout de la table et l'autre vis-à-vis du premier. La table vacillait. Elle occupait toute la pièce. Et quand la bonne sortait avec la patronne de la chambre des enfants, elle heurtait le coin du meuble.
« Ne traînez donc pas par ici !» criait Victor.
La patronne disait d'un ton vexé à son mari « Vassia, dis-lui de ne pas m'injurier !»«
Tu ferais mieux de ne pas ébranler la table !»
lui répondait celui-ci, toujours conciliant.
« Je suis enceinte, il n'y a presque pas de place !»
« Eh bien, nous irons travailler au grand salon. »
Mais la femme, mécontente, s'exclamait.
« Seigneur, a-t-on jamais vu quelqu'un travailler au salon ?»
À la porte, apparaît un visage irrité et rougi par les flammes du fourneau de la cuisine. C'est la belle-mère. Elle crie.
« Tu vois, Vassia, tu travailles, et elle est à l'étroit dans 4 pièces. Quelle princesse !»
Victor ricane et le patron commande « Assez !» Mais la belle-mère, après avoir inondé sa bru d'un torrent de paroles venimeuses, s'affale sur une chaise et gémit.
« Je m'en vais. Je meurs. »« Vous m'empêchez de travailler et que le diable vous emporte !»
hurle le patron, blême d'effort.
« Quelle maison de folle ! C'est pour vous nourrir que je me tue de travail. Oh, ces poules !»
Au commencement, ces disputes m'effrayaient. J'eus bien peur, surtout un jour que la patronne, s'emparant d'un couteau de table, courut se cacher dans le water closet. La porte fermée au crochet, elle se mit à y brailler d'une manière sauvage. Pendant un instant, le silence se fit dans la maison, puis le patron, s'appuyant des deux mains à la porte, se pencha et me dit « Grimpe sur mon dos, casse la vitre, enlève le crochet !» Prestement, je sautai sur son dos, je brisai l'imposte, mais quand je voulus me baisser vers l'intérieur, la patronne se mit à me marteler le crâne avec le manche du couteau. Je parvins néanmoins à ouvrir la porte, et le patron, traînant à grand-peine sa femme dans la salle à manger, réussit à lui enlever son arme. Assis à la cuisine, je frottai ma tête endolorie, et je devinai bien vite que j'avais souffert en vain. Le couteau était émoussé. On ne pouvait même pas s'en servir pour couper convenablement du pain, encore moins pour se trancher la gorge. Il ne m'aurait pas été nécessaire de grimper sur le dos du patron. J'aurais fort bien pu briser la vitre en montant sur une chaise. Enfin, une grande personne aurait eu plus de facilité à enlever le crochet ayant les bras plus longs. Après cette histoire, les querelles dans cette maison ne m'émotionnèrent plus. Les deux frères chantaient au chœur paroissial. Parfois, tout en travaillant, ils entonnaient à mi-voix une chanson. L'aîné commençait d'une voix de baryton. « J'ai laissé tomber dans la mer l'anneau de la jeune fille aimée. » Le cadet ténorisait. « Et avec cet anneau, j'ai perdu tout le bonheur qu'on peut avoir sur terre. » De la chambre des enfants arrivait une exclamation étouffée. « Vous avez perdu la tête, le petit dort !» Ou bien « Tu es mariée, Vassia, tu peux chanter autre chose que des chansons d'amour. De quoi cela a-t-il l'air ? D'ailleurs, on va bientôt sonner les vêpres. » « Eh bien, nous allons chanter un cantique. » Mais la patronne expliquait qu'il n'était pas convenable de chanter des airs religieux n'importe où, et surtout... Et elle désignait d'une main éloquente la petite porte du water closet. « Il faut changer d'appartement, sinon je ne sais ce que je deviendrai, » concluait le patron. Il répétait tout aussi fréquemment qu'il fallait changer de table, mais il le répéta pendant plus de 3 ans. En écoutant mes patrons parler des autres gens, je me rappelais toujours le magasin de chaussures. C'était le même répertoire. Je le constatais nettement. Mes patrons se considéraient aussi comme le dessus du panier de la ville. Ils connaissaient les règles de conduite les plus précises, et, s'appuyant sur ces règles, très vague à mes yeux, il jugeait tous les gens sans la moindre pitié. Ces sentences faisaient naître en moi un ennui féroce et de l'acharnement contre les décrets de mes patrons. Violer ces lois devint pour moi une source de plaisir. J'avais beaucoup de besogne. J'exerçais les fonctions de femme de chambre. Le mercredi, je lavais le plancher de la cuisine, je nettoyais le samovar et les cuivres. Le samedi, je lavais les planchers de tout l'appartement et les 2 escaliers. Je fendais et montais tout le bois pour les poêles. Je lavais la vaisselle et pelais les légumes. J'allais au marché avec la patronne, portant derrière elle un panier plein de ses achats. Je courais à l'épicerie, à la pharmacie. Mon chef le plus direct, la sœur de grand-mère, la vieille femme bruyante, perpétuellement en colère, se levait de bonne heure, vers 6 heures du matin. Après une rapide toilette, elle allait s'agenouiller en chemise devant l'image sainte et elle se plaignait longuement à Dieu de sa vie, de ses fils, de sa bru. « Seigneur !» s'exclamait-elle avec des larmes dans la voix, les doigts rassemblés appliqués sur son front. « Seigneur, je ne te demande rien, je n'ai besoin de rien. Laisse-moi seulement me reposer.
Calme-moi, Seigneur, par ta force. » Ces lamentations me réveillaient. Je la guettais de dessous ma couverture et j'écoutais avec effroi ses ardentes prières. Le matin automnal apparaissait vaguement à la fenêtre de la cuisine, à travers les vitres embuées par la pluie. Dans la pénombre froide, une silhouette grise se balance sur le plancher et agite une main anxieuse. Le fichu, mal assujetti sur sa petite tête, laisse tomber sur son cou et sur ses épaules quelques mèches de cheveux clairs. Le fichu glisse constamment. La vieille le rajuste de la main gauche et grommelle « Que la peste te prenne !» Avec frénésie, elle se frappe le front, le ventre, les épaules, et elle siffle « Et punis ma bru, Seigneur, pour me faire plaisir. Fais-lui payer toutes mes offenses, toutes, et ouvre les yeux à mon fils, et à Victor aussi. Seigneur, viens en aide à Victor, comble-le de tes grâces. » Victor dort dans la cuisine. Réveillé par les jérémiades de sa mère, il crie d'une voix ensommeillée « Vous hurlez de nouveau avant qu'il fasse jour, maman. C'est une vraie calamité. »« c'est bon, dors !» murmure la vieille, confuse. Pendant une minute ou deux, elle se balance en silence, puis elle recommence à s'exclamer d'un ton vindicatif. « Et que nos ennemis aient mal dans tous les os, Seigneur, qu'ils soient sans feu ni lieu !» Grand-père lui-même ne priait pas d'une façon aussi terrifiante. Ses dévotions achevées, elle me réveillait. « Lève-toi, assez ronflé, tu n'es pas là pour ne rien faire. Allume le samovar, va chercher du bois. Tu n'as pas préparé du petit bois hier soir, hein ?» Je m'efforçais de travailler le plus vite possible, pour ne pas entendre les murmures aigus de la vieille. Mais il était impossible de la satisfaire. Elle tournoyait dans la cuisine comme une tempête de neige en hiver, et elle sifflait tout en tourbillonnant. « Doucement, démon, si tu réveilles Victor, tu verras. Va vite à l'épicerie. » Les jours de semaine, on achetait pour le thé du matin 2 livres de pain de seigle et 2 petits pains d'un sou pour la jeune femme. Quand j'apportais l'emplette, les deux femmes examinaient le pain d'un air soupçonneux et demandait, en le soupesant, « Et il n'y avait pas de morceaux pour faire le poids? Voyons, ouvre la bouche !» Et elle criait d'un ton victorieux, « Il a dévoré le morceau! Il a encore des miettes aux dents! Là, tu vois, Vassia !» Je travaillais volontiers, j'aimais à anéantir la saleté dans la maison, à laver les planchers, à faire briller les cuivres, les poignées des portes. Plus d'une fois, j'entendis les deux femmes parler de moi aux heures d'accalmie. « Il est zélé. Il est propre sur lui, mais trop insolent. Eh, mère, par qui a-t-il été élevé ?» Et toutes deux s'efforçaient de m'inspirer du respect. Mais je les considérais comme à moitié folles. Je ne les aimais pas, je ne les écoutais pas, et je leur répliquais constamment. La jeune femme remarquait sans doute le peu d'effet qu'avaient sur moi certaines observations, car elle se mit à me répéter de plus en plus souvent « Tu dois te rappeler que tu sors d'une famille de mendiants. J'ai donné à ta mère une pèlerine de soie garnie de jais. » Une fois, je répondis « Alors, à cause de cette pèlerine, il faudrait me laisser écorcher vif pour vous ?»« Mon Dieu, il est capable de mettre le feu à la maison !» s'exclama la patronne effrayée. J'en fus extrêmement surpris. « Mettre le feu? Pourquoi ?» De temps à autre, toutes deux se plaignaient de moi au patron. Celui-ci me disait d'un ton sévère « Toi, mon ami, prends garde !» Mais un jour, il dit avec indifférence à sa femme et à sa mère « Vous ne valez pas mieux que lui. Vous harcelez ce gamin comme si c'était un cheval. » Un autre à sa place aurait pris la fuite depuis longtemps, ou bien il serait crevé de fatigue. Les femmes furent irritées jusqu'aux larmes. Tapant du pied, la jeune s'écria avec fureur : « Comment peux-tu parler ainsi en sa présence ?
Imbécile aux longs cheveux. Que suis-je pour lui après des propos pareils? Et je suis enceinte. »
La mère geignait et larmoyait.
« Que Dieu te pardonne, Vassia, mais rappelle-toi ce que je te dis. Tu le gâtes, ce garnement. »
Lorsqu'elles furent sorties, courroucées, le patron me dit avec sévérité.
« Tu vois, petit démon, le vacarme dont tu es cause, je vais te renvoyer chez ton grand-père, et tu seras de nouveau chiffonnier. »
Piqué par l'injure, je répliquai.
« J'aime mieux être chiffonnier que de demeurer ici. Vous m'avez engagé comme apprenti, et que m'apprenez-vous? À vider les eaux sales. »
Le patron me prit par les cheveux, mais doucement, sans me faire mal. Il me regarda dans les yeux et me dit avec étonnement
« Tu es un lapin, mon ami. Ça, mon petit, ça ne me va pas, non ?»
Je pensais qu'il allait me renvoyer, mais le surlendemain, il arriva à la cuisine muni d'un rouleau de gros papier, d'un crayon et d'une règle. « Quand tu auras fini de nettoyer les couteaux, tu dessineras ceci. » Sur une feuille de papier était représentée la façade d'une maison à deux étages, à ornements de plâtre, à fenêtres innombrables. « Tiens, voilà un compas. Mesure toutes les lignes, reporte leurs extrémités sur le papier par des points. Ensuite, avec la règle et le crayon, tu relieras les points les uns aux autres. D'abord en long, ce sera les lignes horizontales, puis en travers, ce sera les verticales. Vas-y. »
J'étais enchantée de ce travail propre, le premier de mon apprentissage. Mais je regardais les instruments et le papier avec une sainte terreur, n'y comprenant rien. Toutefois, après m'être lavé les mains, je me mis immédiatement à l'étude. Je dessinai d'abord toutes les horizontales. Je les vérifiais, elles étaient justes. Pourtant, il y en avait trois de trop. Je traçai toutes les verticales et constatai avec étonnement que la façade de la maison était outrageusement déformée. Les fenêtres avaient pris la place des panneaux et l'une d'elles, glissant au-delà du mur, était suspendue dans le vide, à côté de l'immeuble. Le perron principal, lui, s'était élevé à la hauteur du deuxième étage. Son fronton se trouvait au milieu du toit. La fenêtre du grenier était placée sur la cheminée. Sur le point de pleurer, je considérais longuement ces miracles irréparables, en essayant de comprendre comment ils avaient pu se produire. Je n'y parvins pas. Je résolus d'arranger les choses par un peu de fantaisie. Au fronton des fenêtres, sur le bord du toit, je dessinai des corbeaux, des pigeons, des moineaux, et sur le sol, devant les fenêtres, des passants difformes qui cachaient mal leurs jambes torses sous des parapluies. Puis, je traçai des lignes en travers et je portai mon travail à mon professeur. Celui-ci plissa le front, ébouriffa ses cheveux et s'informa d'une voix maussade.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Il pleut, » expliquai-je. « Quand il pleut, les maisons ont toutes l'air de travers parce que la pluie tombe toujours de biais. »
Les oiseaux. Tout ça, ce sont des oiseaux. Sont venus se mettre à l'abri. C'est toujours comme ça quand il pleut.
Et ça, ce sont des gens qui rentrent chez eux en courant. Voilà une dame qui est tombée. Ça, c'est un marchand de citrons.
Grand merci, m'interrompit le patron, penché sur la table, les cheveux balayant le papier.
Il éclata de rire et s'écria « Oh, que le cric te croque, petit moineau polisson !»
La patronne survint, roulant son ventre comme un tonnelet. Elle examina mon travail et dit à son mari
« Tu devrais le fouetter !»
Mais il lui fit remarquer, toujours indulgent
« Soyons justes, je n'ai pas mieux fait à mes débuts !»
Soulignant au crayon rouge les mutilations de la façade, il me donna une autre feuille de papier. « Essaye encore une fois. Tu recommenceras ça jusqu'à ce que tu y arrives. »
La seconde copie me réussit mieux. Seule une fenêtre se trouva sur la porte d'entrée. Mais cette maison vide ne me plaisait pas. Je la peuplais de toutes sortes d'habitants. Aux fenêtres, Je dessinais des dames tenant un éventail, des messieurs fumant des cigarettes. L'un d'entre eux faisait un pied de nez à toute la compagnie. Devant le perron, on voyait un fiacre arrêté et un chien. « Pourquoi as-tu de nouveau barbouillé ton épure ?» demanda le patron perdant patience. Je lui expliquais que sans personnage, le tableau était par trop ennuyeux. Mais il se mit à m'injurier. « Baliverne, si tu veux apprendre, travaille. Ça, ce ne sont que des amusettes. » Lorsque je réussis enfin à faire une copie de la façade conforme à l'original, il parut fort satisfait. « Tu vois, tu y es arrivé. Si tu continues ainsi, nous ferons quelque chose de toi avant longtemps. » Et il m'assigna un devoir. « Fais le plan de l'appartement. Dessine la disposition des pièces, l'emplacement des portes, des fenêtres, des meubles. Je ne t'indiquerai rien. Tire-toi d'affaire tout seul. » Je m'en allais à la cuisine et me demandais par quoi j'allais commencer. Mais mes études dans l'art de dessiner devaient s'arrêter là. La mère du patron s'approcha de moi et s'informa d'un ton menaçant. « Ah, tu veux dessiner ?» M'attrapant par les cheveux, elle me cogna la figure contre la table de telle sorte que j'eus le nez et les lèvres fendus. Puis elle déchira le dessin, jeta sur le plancher tous mes instruments et, les mains aux hanches, s'exclama victorieuse. « Là, dessine maintenant !»« Non, non, ça ne se passera pas ainsi. Apprendre à travailler à un étranger pour renvoyer ensuite son frère, son propre frère !» Le patron accourut, suivi de sa femme. Il y eut un vacarme épouvantable. Tous trois s'assaillaient mutuellement, hurlaient, crachaient. La scène prit fin lorsque, les femmes s'étant retirées pour pleurer, le patron me dit « Laisse tout ça pour le moment. Tu vois toi-même ce que ça donne. » Il me fit pitié, tant il était impuissant, houspillé et assourdi par les cris continuels des deux femmes. J'avais compris dès le début que la vieille mère ne voulait pas que j'apprisse et qu'elle y mettait obstacle avec intention. Avant de m'asseoir pour dessiner, je lui demandais toujours « Il n'y a rien à faire ?» Elle répondait d'un ton grognon « Quand il y aura quelque chose à faire, je te le dirai. En attendant, perds ton temps à barbouiller. » Au bout d'un moment, elle m'envoyait chercher n'importe quoi, ou bien elle me disait « Comment as-tu balayé l'escalier? Il y a de la poussière et de la saleté dans tous les coins. Va-t'en le balayer de nouveau. » J'obéissais. Je regardais, et il n'y avait pas de poussière. « Ah, tu veux discuter avec moi ? » criait-elle. Une fois, elle aspergea tous mes dessins de kvass. Une autre fois, elle renversa sur eux l'huile de la petite veilleuse qui brûlait devant les icônes. Elle me chicanait comme une gamine, avec une ruse enfantine et une naïve incapacité de dissimulation. Je n'avais jamais vu, et je ne vis plus jamais depuis, quelqu'un qui se fâchait aussi vite et aussi facilement qu'elle, et qui aima aussi passionnément à se plaindre de tout et de tous. Les gens, en général, aiment à se lamenter, mais elle le faisait avec volupté, comme si elle eût chanté un récitatif. Son affection pour son fils Victor confinait à la folie. Elle me troublait et m'effrayait par sa force que je ne puis qualifier autrement que de frénétique. Parfois, après les prières du matin, elle montait sur la première marche du poêle et, les coudes appuyés sur la planche extérieure de la soupente, elle chuchotait avec ardeur « Mon fils, mon sang brûlant, mon sang pur, dors, mon petit, que ta petite âme se revête d'un joyeux sommeil. » Rêve d'une fiancée, la plus jolie de toutes les filles, la fille d'un roi, d'un Richard, d'un gros marchand. Que tes ennemis crèvent avant d'avoir vu le jour, que tes amis vivent 100 ans, que les filles te suivent par bandes, comme les oies suivent le jard. J'étouffais un irrésistible fou rire.
Grossier et paresseux, Victor ressemblait à un dindon. Tout aussi multicolore, le nez aussi gros, et aussi obstiné, aussi borné. Parfois, le murmure de sa mère le réveillait, et il grommelait tout en sommeillant. « Allez-vous-en au diable, maman! Qu'est-ce que vous êtes là à me souffler au nez? Il n'y a plus moyen de vivre !» Il arrivait parfois qu'elle descendît docilement du poêle et dit en souriant « Eh bien, dors, dors, malhonnête !» Mais d'autres fois, ses jambes se pliaient et se heurtaient au coin du poêle. Elle ouvrait la bouche, soufflait avec bruit comme si elle s'était brûlée la langue, et des paroles violentes s'égrenaient. « Hein ! Hein ! C'est ta mère que tu envoies au diable, coquin ! Ah, tu es ma honte et mon opprobre ! Tu es mon maudit abcès. C'est le diable qui t'a mis dans mon âme. Pourquoi n'as-tu pas pourri avant de venir au monde ?» Elle proférait des paroles malpropres, des paroles d'ivrognesse. J'étais terrifiée en les entendant. Elle dormait peu, d'un sommeil agité, sautant à bas du poêle plusieurs fois pendant la nuit. Elle s'effondrait sur le canapé à côté de moi et me réveillait. « Que voulez-vous ? Tais-toi » chuchotait-elle en se signant et en scrutant on ne sait quoi dans la pénombre. « Seigneur, prophète Élie, bienheureuse martyre, sainte Barbe !» D'une main tremblante, elle allumait la bougie. Son visage rond, au nez bombé, se figeait d'attention. Ses yeux gris clignotaient avec anxiété, examinaient les choses transformées par la pénombre. La cuisine était grande, mais encombrée de malles et d'armoires. Et la nuit, elle paraissait petite. Les rayons de lune s'y promenaient sans bruit. La petite flamme de la lampe éternelle tremblotait devant les images saintes. Au mur, les couteaux scintillaient comme des stalactites de glace. Sur les rayons, les poils noirs ressemblaient à des visages sans yeux. La vieille glissait avec précaution au bas du poêle, comme si elle fût descendue du bord d'une rivière jusque dans l'eau. Traînant ses pieds nus, elle s'en allait dans l'angle où se trouvait, au-dessus du baquet aux eaux sales, un lave-main à anse. Tout en soupirant et en haletant, elle buvait de l'eau. Puis elle regardait au dehors, à travers le dessin bleuâtre de la gelée sur les vitres. « Ayez pitié de moi, Seigneur ! Ayez pitié !» suppliait-elle à mi-voix. Parfois, après avoir éteint la bougie, elle tombait à genoux et sifflait avec colère. « Qu'est-ce qui m'aime, Seigneur ? Qui a besoin de moi ?» Elle remontait sur le poêle, et après avoir fait le signe de croix sur la porte du four, elle s'assurait si ses bigoudis étaient bien fixés. Elle se salissait les mains avec de la suie, se répandait en injures, et elle se rendormait brusquement, comme terrassée par une force invisible. Quand j'étais irritée contre elle, je me disais « Quel dommage que grand-père ne se soit pas marié avec elle, elle l'aurait dressée, et elle aurait eu son compte aussi. » Elle m'exaspérait souvent, mais il y avait des jours où son visage boursouflé et ouaté devenait triste. Ses yeux se noyaient de larmes, et elle disait d'un ton très convaincu « Tu crois que j'ai la vie facile ? J'ai mis des enfants au monde, je les ai élevés, je leur ai donné une profession, et pourquoi ? Pour leur servir de cuisinière. Penses-tu que cela me fasse plaisir ? Mon fils m'a amené une étrangère, et il abandonne pour elle sa propre famille. Est-ce bien cela ? Réponds !»« Non, ce n'est pas bien, » disais-je avec sincérité. « Ah, tu vois !» Et elle se mettait à parler de sa bru de façon obscène. « J'ai été au bain avec elle, je l'ai vue, elle a de quoi se vanter. Est-ce ça qu'on appelle des beautés ?» Elle parlait toujours d'une manière étonnamment sale des rapports entre hommes et femmes. Au commencement, ses propos m'inspiraient du dégoût, mais je m'habituais bientôt à les écouter avec attention, avec beaucoup d'intérêt, devinant qu'il contenait une douloureuse et secrète vérité. « La femme, c'est une force, elle a trompé Dieu,
Lui-même, oui, parfaitement, répétait-elle à voix basse en frappant de la main sur la table à petits coups.
C'est à cause d'Ève que tout le monde s'en va en enfer.
Eh oui, parfaitement. Elle pouvait parler interminablement de la force de la femme, et il me semblait toujours que par de tels propos, elle essayait d'effrayer on ne sait qui. Ce qui me frappa surtout, c'est qu'Ève avait trompé Dieu.
Chapitre 7. Une grande bâtisse, en elle, donnait sur la cour. Les deux constructions comptaient 8 appartements. 4 étaient occupés par des officiers, et le 5e par l'aumônier du régiment. La cour était grouillante d'ordonnances, d'estafettes, chez qui venaient des blanchisseuses, des femmes de chambre, des servantes. Dans toutes les cuisines se jouaient perpétuellement des drames et des romans, accompagnés de larmes, d'injures et de coups. Les soldats se battaient tantôt entre eux, tantôt avec les terrassiers, tantôt avec les ouvriers du propriétaire. On battait les femmes. La cour était un lieu suant la débauche et la corruption. Une faim bestiale et jamais assouvie tourmentait ces gaillards robustes et sains. Cette vie imprégnée de sensualité cruelle, de sadisme stupide, de fanfaronnade malpropre de la part des vainqueurs, intéressait vivement mes patrons. Ils en discutaient les détails sans se gêner, au dîner, au thé et au souper. La vieille était toujours au courant de toutes les histoires du voisinage et elle les répétait avec un empressement malveillant. La jeune femme écoutait sans mot dire. Ses lèvres gonflées souriaient. Victor riait à gorge déployée. Mais le patron faisait la grimace et coupait court à ses propos.
« Assez, maman !»«
Mon Dieu, je ne peux même plus dire un mot !»
geignait la conteuse.
Victor l'encourageait. « Allez-y, maman, ne vous gênez pas, nous sommes entre nous !» Je ne saisissais pas pourquoi il était permis de parler « entre soi » de choses obscènes. Le fils aîné traitait sa mère avec une pitié dédaigneuse. Il évitait de se trouver en tête-à-tête avec elle, mais quand la chose arrivait, elle se plaignait de la jeune femme et finissait immanquablement par lui demander de l'argent. Il lui glissait à la hâte dans la main un rouble ou deux ou quelques pièces blanches.
« À quoi bon me demander de l'argent, maman? Je ne le regrette pas, mais... pour ce que vous en faites.
C'est pour les pauvres, c'est pour l'église, pour les cierges.
Pour les pauvres. Vous gâtez Victor atrocement.
Tu n'aimes pas ton frère. C'est un grand péché que tu as sur la conscience. »
Il s'en allait, ne voulant pas discuter. Victor était toujours brutal et sarcastique envers sa mère. Extrêmement glouton, il avait toujours faim. Le dimanche, la vieille femme faisait des beignets et en cachait régulièrement quelques-uns dans un pot qu'elle plaçait sous le canapé qui me servait du lit. En revenant de la messe, Victor atteignait le pot et grommelait
« Tu n'aurais pas pu en mettre davantage ?»«
Avale vite, qu'on ne te voit pas !»«
Je leur dirai, moi, que tu voles des beignets pour me les donner. »
Un jour, je puisais dans le pot et je mangeais 2 beignets. Pour me punir, Victor me rossa. Il ne m'aimait pas plus que je ne l'aimais. Il me tourmentait, me forçant à nettoyer 3 fois par jour ses souliers. Quand il se couchait, il écartait à dessein les planches de la soupente pour me cracher sur la tête au travers des fentes. Tout autour de moi, je ne découvrais qu'obscénité, cruauté, vilenie, infiniment plus que dans les rues de Kounavin, si riche de maisons publiques, de filles de trottoir. À Kounavin, sous la boue et les dérèglements de la vie, on sentait la cause qui les expliquait. Le travail pénible des jours sans pain, l'existence précaire. Ici, on connaissait l'abondance, tout était facile. Une agitation désordonnée, une confusion incompréhensible et inutile remplaçait le travail. Un ennui corrosif pesait sur toute chose.
Je n'étais pas heureux. Mais j'étais plus attristé encore quand grand-mère venait me faire une visite. Elle apparaissait à la porte de service. En pénétrant dans la cuisine, elle se signait devant l'icône, puis elle faisait un grand salut à sa sœur cadette. Ce salut m'accablait, m'écrasait littéralement.
« Ah, c'est toi, Akulina ?»
disait la patronne d'un ton froid et dédaigneux. Je ne reconnaissais pas grand-mère. La bouche close avec modestie, le visage transformé, elle s'asseyait sans bruit sur un banc près de la porte, à côté du baquet aux eaux sales, et elle se taisait comme une coupable, répondant aux questions de sa sœur à mi-voix, humblement. Excédée de honte, je disais avec colère « Que fais-tu? Où t'assieds-tu ?» Elle clignait de l'œil d'un air affectueux et me répondait par une remontrance « Tu ferais mieux de te taire, tu n'es pas le maître ici. »
« Il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas, qu'on le batte ou qu'on le gronde !»
répliquait immédiatement la vieille patronne. Assez souvent, elle interrogeait sa sœur d'une voix malveillante.
« Alors, Akulina, tu vis toujours en mendiante ?»«
Que veux-tu? C'est un malheur !»«
Mais non, puisque tu aimes cette existence !»
On dit que le Christ, lui aussi, a vécu l'aumône.
« Ce sont les imbéciles, les hérétiques qui le disent. Et toi, vieille bûche, tu les écoutes. Le Christ n'était pas un mendiant, mais le Fils de Dieu. Il reviendra, est-il dit, dans toute sa gloire pour juger les vivants et les morts. Et les morts, tu entends bien, il n'y a pas moyen de se cacher devant lui, même si l'on était réduit en cendres, ma chère. Il vous revaudra votre orgueil à Vassili et à toi. » Il vous paiera ce que vous m'avez fait quand je venais autrefois vous demander un secours, alors que vous étiez riche.
« Je t'ai aidé, selon mes moyens, » répliquait grand-mère avec calme. « Du reste, le Seigneur nous a déjà punis, tu le sais. »«
Pas assez, pas assez !»
Par ses discours intarissables, elle tourmentait longuement grand-mère. J'écoutais ses paroles haineuses, et je ne comprenais pas que grand-mère pût ainsi les supporter, et je l'aimais moins en ces moments-là. La jeune femme survenait et saluait grand-mère d'un hochement de tête familier. « Allez à la salle à manger! Allez donc à la salle à manger !» La vieille criait à sa sœur qui obéissait. « Essuie-toi les pieds, campagnarde !» Le patron saluait gaiement grand-mère.
« Ah, la brave Akulina, que deviens-tu? Et le vieux Kachirine, est-il toujours de ce monde ?»
Elle souriait, de ce bon sourire qui révélait toute son âme.
« Tu peines toujours? Tu travailles toujours ?»«
Toujours, comme un forçat. » Avec lui, grand-mère parlait affectueusement, mais en aîné. Parfois, il évoquait le souvenir de ma mère. Oui, Varvara Vassilievna. Ah, quelle femme c'était! Extraordinaire, hein? Sa femme se tournait vers grand-mère et plaçait un mot.
Vous rappelez-vous, je lui avais fait cadeau d'une pèlerine noire, en soie, garnie de jais.
Mais certainement.
Elle était presque neuve, cette pèlerine.
Puis, on emmenait grand-mère pour lui montrer le nouveau-né. Je débarrassais la table des tasses à thé, et le patron pensif me disait à mi-voix « C'est une bonne vieille, ta grand-mère. » Je lui étais profondément reconnaissant de ses paroles. Resté en tête-à-tête avec grand-mère, je lui demandais, l'âme endolorie, « Pourquoi viens-tu ici? Tu vois bien comme ils sont. » « Je le vois bien, Alexis, je vois tout. » répondait-elle avec un fin et doux sourire sur son splendide visage. Et j'avais honte. Évidemment, elle voyait tout. Elle savait tout. Elle savait aussi ce qui se passait en moi en cet instant-là. Après avoir prudemment regardé si personne ne nous voyait, elle m'embrassait et me disait de sa voix si profondément cordiale. « Si tu n'étais pas ici, je ne viendrais pas. Qu'ai-je besoin d'eux ? Et puis le grand-père est tombé malade. J'ai dû le soigner. Je n'ai pas pu travailler et je n'ai pas d'argent. Mon fils, Mikhailo, a renvoyé Sacha et il faut le nourrir. Ici, ils ont promis de donner 6 roubles par an pour toi. Je me demande s'ils m'en donneront seulement un seul, car il y a plus de 6 mois que tu es dans cette maison. » Et elle me chuchote à l'oreille. « Ils m'ont dit de te gronder. Il paraît que tu n'obéis à personne. Prends patience pendant 1 an ou 2. Reste ici jusqu'à ce que tu sois plus vigoureux. Prends patience, mon petit. » Je promis, mais ce fut dur. Cette vie misérable et ennuyeuse, où on ne s'agitait que pour le manger, m'accablait, et il me semblait que je vivais comme un mauvais rêve. Parfois je me disais « il faut fuir ». Mais c'était l'hiver, la nuit, la tempête hurlait, le vent errait dans le grenier. Les planches, saisies par le gel, craquaient. Où donc aurais-je pu fuir? On ne me permettait pas de sortir. D'ailleurs, je n'aurais pas eu le temps de me promener. Les courtes journées hivernales se consumaient, incroyablement rapides, dans l'agitation des besognes domestiques. Mais on m'obligeait à fréquenter l'église, à assister le samedi aux vêpres et le dimanche à la dernière messe. L'église m'attirait. Debout dans un coin isolé et obscur, j'aimais à regarder de loin l'iconostase. Il semblait fondre dans les flammes des cierges et couler en ruisseaux d'or jusque sur les dalles grises devant l'autel. Les visages sombres sur les icônes remuaient un peu. La dentelle dorée des portes du sanctuaire palpitait doucement. Les flammes des cierges se figeaient dans l'air bleuâtre comme des abeilles d'or. Les têtes des femmes et des jeunes filles me faisaient penser à des fleurs. Autour de moi, tout se fond harmonieusement avec le chant du cœur. Tout palpite de la vie féerique des contes. L'église tout entière se balance lentement comme un berceau dans l'espace noir et épais. Parfois, il me semble que l'église est plongée au fond d'un lac, dissimulée aux yeux de la terre, afin de vivre d'une vie particulière, ne ressemblant à nulle autre. Sans doute, cette impression me venait-elle des récits que grand-mère m'avait faits d'une ville nommée Kitiège. Souvent je me perdais dans ma rêverie avec tout ce qui m'entourait, bercé par les chants liturgiques, le bruissement des prières, les soupirs des fidèles, et je me répétais la légende mélancolique et chantante. Les Tatars maudits et leurs armées sacrilèges ont assiégé la bonne ville de Kitiège. Ah, l'heure claire de l'aurore! Ô Seigneur notre Dieu, et toi, très sainte Vierge, daignez accorder à vos esclaves la grâce d'assister au culte matinal, d'écouter jusqu'au bout la lecture des saints livres. Oh, n'abandonnez pas la Sainte Église à la profanation des Tatars. Ni les femmes et les filles, ni les petits-enfants au jeu féroce de l'ennemi, ni les vieux que menace une mort cruelle. Et le Seigneur Dieu les a entendus, la Sainte Vierge les a exaucés, ces soupirs humains, ces plaintes chrétiennes. Et le Seigneur Dieu a dit au lumineux archange Saint Michel, « Va donc, Michel, ébranlez la terre sous la ville de Kitiège, plonge-la dans le lac, et que les gens prient sans arrêt comme sans fatigue depuis matine jusqu'à vêpres, et assistent à tous les offices sacrés, au siècle et au siècle des siècles. » Durant ces années-là, les poèmes de grand-mère remplissaient mon âme comme le miel remplit une ruche. Je crois même que je pensais en vers. À l'église, je ne priais pas. Je ne pouvais guère adresser au bon Dieu de grand-mère les prières haineuses de grand-père, ni des psaumes larmoyants. J'étais persuadée que ses prières et ses psaumes ne lui plaisaient pas plus qu'à moi. En outre, puisqu'on les trouvait imprimés dans les livres, Dieu les connaissait par cœur, comme tous les gens qui savaient lire et écrire. Aussi, à la messe, lorsque mon cœur se serrait d'une douce inquiétude dont la cause m'était obscure, ou lorsqu'il était mordu ou égratigné par les menues mortifications du jour, j'essayais de me composer des prières. Il me suffisait de penser à mon sort si peu enviable, et de même, sans effort, les mots s'alignaient pour former des complaintes. « Seigneur, Seigneur, je m'ennuie. Faites que je sois bientôt grand, car je n'ai plus la patience de vivre. J'aimerais mieux me pendre, que Dieu me pardonne. De mon apprentissage, je ne retire rien. Ma patronne, ce vieux diable, hurle après moi comme un loup, et la vie m'est bien amère. » Aujourd'hui encore, je me rappelle nombre de mes prières. Le travail de l'esprit, pendant l'enfance, creuse dans l'âme des plaies si profondes que parfois elles ne peuvent plus se fermer. À l'église, je me sentais bien. Je m'y reposais comme lorsque j'allais à la campagne ou dans la forêt. Mon cœur enfantin, familiarisé déjà avec les humiliations, meurtri par les brutalités de l'existence, se purifiait dans des rêveries ardentes et confuses. Mais je n'allais aux offices que les jours de grand froid ou lorsque la tempête de neige faisait rage dans la ville, lorsqu'il semblait que le ciel était congelé et que le vent l'avait scié en nuages de neige, lorsque la terre, durcie sous l'état de neige, semblait ne jamais plus devoir s'amollir et revivre. Par les soirs moins rigoureux, je préférais me promener en ville, allant d'une rue à l'autre, rôdant jusque dans les recoins les plus reculés. Parfois, il me semblait que j'étais porté sur des ailes et seul, comme la lune au ciel. Devant moi rampait mon ombre. Elle éteignait les étincelles de lumière sur la neige. Elle escaladait drôlement les palissades et les bornes. Au milieu de la rue, le veilleur de nuit cheminait, sa crécelle en main, vêtu d'une lourde peau de bique. À côté de lui, son chien tremblait. La silhouette informe du veilleur ressemble à une niche à chien qui se serait enfui d'une cour et irait à l'aventure dans les rues, suivi d'un caniche frissonnant. Parfois, je rencontrais des jeunes gens et des jeunes filles qui riaient, et je me disais qu'eux aussi avaient manqué les vêpres. D'autres fois, il me semblait qu'à travers les vasistas des fenêtres éclairées venait je ne sais quel parfum subtil, inconnu, évocateur d'une vie différente que je ne connaissais pas. Je restais immobile sous la fenêtre, je flairais, je prêtais l'oreille, et j'essayais de deviner qui vivait là et comment on y vivait. C'était l'heure des offices, et pourtant, là, on s'amusait gaiement, on riait, on jouait d'une guitare d'un genre particulier. Par le vasistas m'arrivaient des sons pareils à ceux de cordes de cuivre. Une maison d'un étage seulement, située à l'angle de deux rues désertes, la rue Martinovska et la rue Tihonovska, m'intéressait beaucoup. Je l'avais découverte par une nuit de lune et dégel avant le Mardi Gras. Par le vasistas carré, coulait dans la rue, en même temps qu'une tiède vapeur, un son inaccoutumé, comme si quelqu'un eût chanté en fermant la bouche. Je ne distinguais pas les mots, mais la chanson me parut très simple et compréhensible, quoique les sons d'un instrument à cordes interrompissent désagréablement le cours du chant. Je m'assis sur une borne en me disant qu'on jouait d'un violon d'une sonorité extraordinaire, mais peu agréable à entendre. Parfois, l'instrument chantait avec une telle puissance que la maison tout entière semblait en trembler. Les vitres de la fenêtre résonnaient. Des gouttes d'eau tombaient du toit. De mes yeux aussi, des larmes commencèrent de couler. Sans que je l'entendisse, le vieilleur de nuit s'approcha de moi et, me poussant à bas de la borne, il me demanda « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'écoute la musique, » expliquai-je. « Ce n'est pas une raison. Va-t'en. »
Je fis au pas de course le tour du pâté de maison et revins sous la fenêtre. Mais on ne jouait plus. Un vacarme joyeux s'élevait. Tout était si différent qu'il me sembla avoir entendu en rêve la musique mélancolique. Presque tous les samedis, je courais vers cette maison. Mais une fois seulement, au printemps, j'entendis de nouveau le violoncelle. Il chanta presque sans arrêt jusqu'à minuit. Quand je rentrais, je fus giflé. Ces promenades nocturnes sous les étoiles hivernales, le long des rues désertes, m'enrichissaient de sensations. Je choisissais à dessein les avenues éloignées du centre, car au cœur de la ville, il y avait beaucoup de réverbères, et des amis de mes patrons auraient pu me remarquer. Ces derniers auraient ainsi appris où je passais les heures des vêpres. Puis les ivrognes, les sergents de ville et les filles publiques me gênaient. Dans les rues plus écartées, on pouvait regarder à travers les fenêtres des rez-de-chaussée si elles n'étaient pas trop givrées ou voilées d'un rideau. Que de spectacles différents! Je vis comment les gens priaient, s'embrassaient, se battaient, jouaient aux cartes, conversaient sans bruit et d'un air soucieux. Devant moi se dessinait, comme dans un panorama à 10 centimes, une vie muette, pareille à celle des poissons. Dans un sous-sol, je remarquais, assises à une table, deux femmes, une jeune et l'autre plus âgée. En face d'elles, un collégien à longs cheveux leur lisait un livre en agitant le bras. La jeune écoutait, les sourcils froncés, d'un air sévère, appuyée au dossier de sa chaise. L'aînée, mince, aux cheveux abondants, se couvrit tout à coup le visage avec ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Le collégien jeta le livre sur la table, et lorsque la plus jeune, se levant brusquement, eut pris la fuite, il tomba à genoux devant l'autre et lui baisa les mains. À une autre fenêtre, je regardais un homme grand et barbu. Sur ses genoux était assise une femme en blouse rouge. Il la berçait comme un enfant et chantait sans doute, à en juger par sa bouche grande ouverte et ses yeux écarquillés. La femme était toute secouée par des éclats de rire, se couchait de tout son long et agitait les pieds. L'homme la redressait et se remettait à chanter. Elle recommençait à rire. Je les regardais longtemps, et je partis lorsque je compris qu'ils avaient fait provision de gaieté pour toute la nuit. Nombre de tableaux analogues se gravèrent à jamais dans ma mémoire. Bien souvent, distrait par leur vue, je rentrais tard. Mes patrons en prenaient ombrage et m'interrogeaient. « À quelle église as-tu été ? Qui était le prêtre officiant ?» Ils connaissaient tous les popes de la ville. Ils savaient quand on lisait tel ou tel évangile. Ils savaient tout. Et il leur était donc facile de me prendre en flagrant délit de mensonge. Les deux femmes adoraient toutes deux le Dieu terrible de mon grand-père, le Dieu qui veut qu'on l'approche avec crainte. Son nom était continuellement sur leurs lèvres. Quand elles se querellaient, elles se menaçaient. « Attends, Dieu te punira, il t'attrapera bien, méchante !» Souvent, au printemps surtout, j'allais me promener au lieu d'aller à la messe. Les invincibles forces de la nature m'empêchait absolument d'entrer à l'église. Et quand on me donnait 5 copecs pour un cierge, j'étais définitivement perdu. J'achetais des osselets, je jouais pendant toute la durée du service et je rentrais régulièrement en retard. Une fois même, je réussis à perdre 10 copecs qu'on m'avait confiés pour les hosties et la messe. Il fallut donc dérober une autre hostie lorsque le diacre passa, en portant le plat qu'il venait de prendre sur l'autel. J'aimais passionnément le jeu. Je m'y adonnais avec frénésie. J'étais assez fort, assez adroit, et j'eus vite fait de me conquérir une renommée dans le voisinage au jeu de balles, d'osselets et de quilles. Au grand carême, on m'obligeait à faire maigre et à suivre tous les offices. Un soir,
J'allais donc me confesser au père Dorimédonte Pokrovski, notre voisin. Je le considérais comme un homme sévère, et j'avais beaucoup de peccadilles à me reprocher vis-à-vis de lui. Je démolissais à coups de pierre le pavillon de son jardin. Je faisais la guerre à ses enfants. En général, il pouvait me rappeler nombre de choses qui lui étaient personnellement désagréables. J'en étais très confus et mon cœur battait. Tandis que, debout dans un coin de la pauvre petite église, j'attendais mon tour de confession. Mais le père Dorimédonte m'accueillit par une exclamation à la fois bienveillante et maussade. « Ah, c'est le voisin. Allons, mets-toi à genoux. Conte-moi tes péchés. » Il me couvrit la tête d'un velours pesant. L'odeur de l'encens et de la cire m'étouffait. J'avais peine à parler, et j'en perdis l'envie. « Tu obéis à tes supérieurs ?»«
Non. » »«
Dis, je m'accuse. » Involontairement, j'avouai avec précipitation, « J'ai volé des hosties. »«
Hein ? Comment ça ?
Où ?» demanda le prêtre, après un instant de réflexion, mais sans se hâter.
« À Saint-Nicolas, aux Trois Sauveurs, à Saint-Martin. »«
Dans toutes les églises, alors ? Ça, mon ami, c'est mal. C'est un gros péché, comprends-tu ? » ?»«
Je comprends. » »«
Dis, je m'accuse. Tu es déraisonnable. Tu les as volés pour les manger ? » ?»«
Oui, quelquefois. D'autres fois, j'avais perdu l'argent au jeu. Il fallait quand même rapporter une hostie. Alors, j'en volais. »
D'une voix lasse et indistincte, le père Dorimédonte se mit à marmotter je ne sais quoi. Puis il me posa encore quelques questions. Soudain, il me demanda d'un ton sévère. « As-tu des livres d'édition interdite ?» Évidemment, je ne compris pas. J'interrogeai à mon tour. « Des livres d'édition interdite ?
As-tu lu des livres défendus ?»«
Non, jamais. »
« Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi. »
Je le regardai avec étonnement. Il avait l'air pensif et beau. J'étais gêné, honteux. En m'envoyant à confesse, mes patrons m'avaient rempli les oreilles d'exhortations et de menaces pour m'engager à révéler loyalement toutes mes fautes. « J'ai jeté des pierres dans votre jardin, » déclarai-je. Le prêtre leva la tête et dit «
Ça aussi, c'est mal. Va-t'en. »
J'en ai lancé au chien.
Au suivant,
appela le père Dorimédonte sans plus me regarder. Je m'en allais, avec l'impression d'avoir été trompé et mortifié. Cette confession m'avait inspiré des craintes, et pourtant, en réalité, ce n'était pas terrible, ni même intéressant. La seule chose notable, c'était la question au sujet de ces livres que je ne connaissais pas. Je me rappelais le collégien qui lisait un livre dans un sous-sol avec deux femmes. Je me rappelais aussi la bonne affaire. Il possédait, lui, beaucoup de livres noirs et épais aux dessins incompréhensibles. Le lendemain, on me donna 10 copecks et on m'envoya à la communion. La fête de Pâques était tardive cette année-là. La neige avait fondu depuis longtemps. Les rues étaient sèches. Sur les routes, tournoyait la poussière. La journée était ensoleillée et joyeuse. Près du mur de l'église, toute une troupe d'ouvriers jouait aux osselets. Je me dis que j'avais encore le temps de communier et je demandai aux joueurs « Puis-je être de la partie ?» Ils acquiescèrent. Nous jouâmes longtemps et je perdis tout mon argent. Je rentrai en courant, persuadé qu'on allait m'interroger et qu'on découvrirait infailliblement que je n'avais pas assisté à la communion. Mais la vieille ne s'informa que d'une chose. « Combien as-tu donné au diacre ?»«
5 copecks, »
dis-je à tout hasard. « 3 copecks auraient suffi en les posant en cachette, et tu aurais pu garder le reste. Benet !»